Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour la quatrième émission du Chemin du Milieu, présentée par Caroline Lorenz, dont le thème aujourd'hui est Confucius. De la vallée de Wei, creusée dans les flancs des plateaux de Leus, les princes de la dynastie de Chu s'exilèrent vers l'est, abandonnant les états installés au point stratégique et frontalier du royaume, états appelés les Marches, qui étaient chargés de polisser et d'empêcher les incursions barbares. Ils les laissèrent en proie à des luttes sanglantes qui devaient les conduire à la suprématie du pays. Sous l'influence des barbares intégrés à ces états, une nouvelle culture différente de celle des Chou commençait à s'affirmer, instaurant d'autres rites funéraires, un art de la guerre où le code d'honneur chevaleresque des Chou, idéal de loyauté envers le seigneur comme envers l'ennemi, fut remplacé par une mentalité de hors-la-loi, ne respectant pas les alliances, les informations circulant de cour en cour par réseau d'espionnage militaire. Informations véhiculées par des ministres transfuges, des servantes accompagnant des princesses promises ou des musiciens. Ce nouvel ordre politique ne reposait plus sur les lignages, mais sur la loi du plus fort. Ces princes victorieux régnèrent tour à tour, se proclamant rois, forts d'avoir intégré les barbares qui augmentaient leur capital humain. Pourtant, ces hégémons continuaient de respecter la dynastie Chu, qui n'avaient plus qu'un pouvoir symbolique. Leurs intentions n'étaient pas mauvaises, comme le souligne le traité de 562 avant Jésus-Christ, qui fut signé lors d'une trêve. Nous tous qui jurons ensemble ce traité, nous n'amasserons pas les récoltes. Nous n'accaparerons pas les profits, nous ne protégerons pas les coupables, nous secourrons ceux qui seront victimes d'une calamité, nous aurons mêmes amis, mêmes ennemis. Nous aiderons la maison royale. Si quelqu'un contrevient à ce décret, que les protecteurs du vrai, les protecteurs des traités, les montagnes vénérables, les rivières vénérables, tous les dieux des monts et des collines, tous les dieux des maisons et des villes, les rois défunts, les seigneurs défunts, les ancêtres des sept familles et des douze seigneuries, que ces dieux éclatants l'anéantissent, qu'il soit abandonné de son peuple, qu'il perde le mandat céleste, que sa famille périsse, que sa seigneurie soit renversée. Malgré ses bonnes résolutions, le ciel n'avait accordé à aucun d'eux la vertu de roi fondateur d'une dynastie. Et la période des printemps et des automnes ne connut que violence et guerre. C'est durant cette période tumultueuse, se situant au VIe siècle avant Jésus-Christ, que la naissance de Kung Fu Tse fut annoncée à sa mère par une tablette de jade apportée par une licorne symbolisant l'extraordinaire. Sur cette tablette était inscrit « Un enfant pur comme le cristal naîtra sous le déclin des Chou. Il sera roi, mais sans aucun domaine. » Chu, de son premier nom donné par sa mère, vit le jour dans une grotte encensée par des fées, sous la protection de deux dragons, au son d'une musique céleste. Il était fort laid, pauvre enfant. Il avait les lèvres d'un bœuf, la bouche grande comme la mer et un dos de dragon. Dans sa tendre enfance, il perdit son père qui appartenait à ce groupe de familles nobles, ruiné par cette époque de bouleversements sociaux dont les cultes avaient disparu en même temps que leur domaine. Mais la légende compte qu'il était un descendant de l'empereur Huangti, celui qui régule le monde de l'étoile polaire. Il se mit très tôt à l'étude, assimilant entre autres matières les classiques dans lesquels étaient chantées la nature et la place de l'homme dans la nature, dont la vie était réglée par les calendriers agraires, ainsi que les légendes des trois augustes et des cinq empereurs. Lorsqu'il prit le bonnet viril, il se maria et eut un fils. Obtenant par son mérite de devenir ministre de la justice, il éduqua alors la criminalité disparue dans le pays de Lou. Il était persuadé du bien fondé des empereurs mythiques, comme Yao et Chuen, et que la transformation de l'homme en homme parfait, le Chen-Jen, le réharmoniserait avec la loi du ciel et ainsi renaîtrait l'ère du Taiping, l'ère de la grande paix. Convaincu, il développa une philosophie afin de faire revivre le savoir, les valeurs culturelles et les pratiques rituelles de la dynastie des Chou dans le but de modifier moralement la société violente et chaotique de son époque. Voici comment il l'entendait. Les anciens, pour développer dans l'Empire les plus hautes vertus, commencèrent par mettre en ordre leurs propres états. Pour mettre en ordre leurs propres états, ils commencèrent par réglementer la famille. Pour réglementer leur famille, ils commencèrent par cultiver leur propre personnalité. Pour cultiver leur personnalité, ils commencèrent par réformer leur cœur. Pour réformer leur cœur, ils s'efforcèrent tout d'abord d'être sincères dans leurs propres pensées. Pour être sincères dans leurs propres pensées, ils commencèrent par développer le plus possible de savoir. Cette extension du savoir réside dans la recherche des choses. Les choses, une fois découvertes, la connaissance devint complète. La science, une fois acquise, leurs pensées furent sincères. Leurs pensées étant sincères, leurs cœurs furent droits. Leurs cœurs étant droits, leurs moi furent cultivés. Leurs moi étant cultivés, leurs familles s'en trouvèrent bien ordonnées. Les familles étant bien ordonnées, chaque État fut bien gouverné. Chaque État étant bien gouverné, l'ensemble de l'Empire fut tranquille et heureux. C'est ce qu'il enseignait à ses élèves lorsqu'il ouvrit une école dans sa propre maison, acceptant tous ceux qui voulaient étudier avec lui, sans discrimination sociale. L'école fonctionnait grâce aux dons offerts par les familles des pensionnaires. Au début, l'école comptait peu d'élèves, mais il a pu se vanter par la suite, nous dit-on, que 3000 élèves, ayant suivi son enseignement, eurent de brillantes carrières. La sagesse, leur disait-il, commence par l'acquisition du savoir. J'ai passé des journées entières sans nourriture et des nuits entières sans sommeil, me livrant à la méditation sans utilité. L'étude est bien préférable. Il est dit que le roi Wen des Chu parvint à faire briller et développer dans tout son éclat le principe lumineux que nous recevons du ciel, et qu'il n'y a rien que le sage ne pousse jusqu'au dernier degré de la perfection et qu'il sache placer sa destinée. Car chaque être est un roi, et son royaume est lui-même, et que l'art de bien gouverner, c'est entretenir la paix et la bonne harmonie dans le monde. Ainsi, n'imposez pas aux autres ce que vous ne vous imposeriez pas. Il apprenait à ses élèves à raisonner par une méthode logique de cause à effet, basée sur l'enseignement des classiques. Le caractère de l'homme se forme par les odes, se développe par les rites, qui sont les règles de cérémonial et de politesse, et se perfectionne par la musique, disait-il. Son principe de base était le perfectionnement de soi-même, qui se répercutait dans toutes les relations extérieures, tant familiales que sociales ou gouvernementales. Négliger ce devoir, insistait-il, c'est se mettre dans l'impossibilité d'arriver à un perfectionnement moral, et je n'ouvre pas le chemin à celui qui ne veut pas se révéler à soi-même. L'exigeante pratique de cette vertu, qu'il appelait humanité, demandait d'être consciencieux, car l'ordre dans la société ne pouvait s'obtenir que par la rectitude morale, la droite attitude des individus et l'observation de la réciprocité dans un système hiérarchisé ne séparant pas la morale individuelle de la morale sociale et civique. Reconnaissant la loi du ciel en lui, l'homme doit y conformer toutes ses actions, aussi bien dans l'adversité que dans la prospérité. L'orgueil, la vanité, la paresse sont à vaincre. L'humilité, l'amour du prochain sont à retenir. Et que s'il n'y a rien que le sage ne pousse jusqu'au dernier degré de la perfection, répète-t-il, qu'il sache aussi placer sa destination, qui, pour le prince, sera dans la pratique de l'humanité, pour le sujet et le fils dans la piété filiale, pour le père dans la tendresse paternelle, et pour les hommes entre eux dans la sincérité et la fidélité. Mais il faut encore discerner la racine et les branches, les causes et les effets produits dans toutes les situations, sans oublier de corriger toutes les passions pour obtenir la droiture du Hun, ainsi que corriger sa partialité pour un bon fonctionnement. Ceci étant posé, quel en serait le chemin approprié ? L'invariabilité du milieu, bien sûr, nous dit Confucius, car ce qui ne dérive d'aucun côté est appelé Chong, qui signifie milieu. Ce qui ne change pas est appelé Yong, qui signifie invariable. Le milieu est la droite règle du monde, l'invariabilité en est la raison fixe. Donc, lorsque vous savez une chose, sachez vous y tenir, et lorsque vous l'ignorez, sachez le reconnaître. Voilà en quoi consiste le véritable savoir. Les conseils qu'il prodiguait devenaient gênants. Les complots se dressèrent contre lui. On voulut même attenter à sa vie. Il fut destitué de ses charges par le prince de Lou. Il partit sur les routes, condamné à errer sans fin, de ci de là, note Sun Quan, accompagné de quelques disciples pendant plus d'une dizaine d'années, essayant d'égrener sa philosophie dans les cours princières à qui voulait l'entendre. Il proposait à tous de se conformer aux règles des trois dynasties et de remettre en honneur la politique des Chou. Et s'il trouvait un prince qui voulût m'employer, soupirait-il, je réussirais en 12 mois à faire déjà une œuvre considérable, et en 3 ans, le gouvernement serait amélioré. Le duc de Tsi écouta ses propos, et les comprenant, il lui offrit les rentes de la ville de Lingqiu. Confucius refusa, prétextant qu'il n'y avait aucun mérite dans sa conduite pour accepter. Il reconnaissait modestement que « dans la littérature, je suis peut-être l'égal des autres, mais je n'ai pas encore atteint à ces mérites de l'homme vraiment supérieur qui se conduit en tout conformément à son enseignement. » La vie de pérégrination était dure. Des pièges lui furent tendus. Ils étaient transit froids et souffraient de faim, ainsi que de privations de toutes sortes. Mais cela ne l'empêchait nullement de continuer en marchant à enseigner à ses disciples la poésie, l'histoire, la philosophie. Il n'innovait rien, il essayait simplement de leur transmettre une sagesse ancestrale. Puis un jour, alors qu'il avait déjà 65 ans, il reçut une invitation de la part du prince de Chu à revenir dans son pays natal. Il vécut ses dernières années entouré de considération, consulté par le gouvernement, consacrant son temps à l'étude des classiques. Ainsi, il remania le Liqi, ou livre des rites, qui traite du savoir-vivre et de l'assouplissement du caractère et du maintien de la paix et de l'ordre social. Il fit un choix des poésies du Sheqing, ou livre des odes, qui illustre la nature de la vie humaine et les principes de la morale. Il regroupa les événements et les légendes de l'âge d'or dans le Chuqing, rédigea le Chunqiu, relatant l'histoire du pays de Lu et commenta le Yi Qing ou Livre des Transformations. Distrayait de poésie et jouait du kuzhin, son instrument de musique préféré, se rappelant avec tendresse maître Chiangzi, son professeur de musique, lui disant « Maintenant que tu as appris cette air de tsin, tu pourras jouer autre chose. » « Non, répondait Confucius, je n'ai pas encore maîtrisé la technique. » Lorsqu'il acquit la technique, maître Chiangzi lui dit « Maintenant que tu as acquis la technique, il est temps que tu apprennes autre chose. » « Mais je n'ai pas encore vraiment compris le sens de la chanson, » lui répondait Confucius. Et il continuait à se concentrer sur le morceau de musique. Mais maître Chiangzi continuait d'insister. « Maintenant que tu as compris le sens, tu peux apprendre autre chose. »« Je ne sais pas encore de qui cette chanson fait l'éloge, » répondit-il. Et Confucius continuait de se concentrer, laissant la mélodie de la chanson pénétrer son cœur. Puis son cœur s'ouvrit et il s'écria « Je sais de qui cette chanson fait l'éloge. Il a l'air un peu sombre, il est grand et mince, son esprit est vaste. Si ce n'est le roi Wen, qui cela peut-il être ? » Maître Chiangzi, fort surpris et rempli d'admiration, dit alors à Confucius, « Votre honneur est un véritable saint. Cette chanson est bien la mélodie du roi Wen des Chou. » Thank you. Alors qu'il allait rejoindre les sources jaunes, il confia à un de ses disciples « Je ne vois pas surgir de monarque intelligent. Personne dans le royaume ne fera de moi son maître. Il est temps que je meure. » Puis un matin, il se mit à chanter. « La grande montagne doit s'écrouler, la forte poutre doit se briser un jour, et le sage se dessécher comme une plante. » Et s'allongeant sur sa natte, il exhala le dernier soupir. Ses disciples dirent de lui qu'il était exempt de quatre choses. Il était sans amour-propre, sans préjugés, sans égoïsme et sans obstination. Réunissant son enseignement, ils le rassemblèrent en quatre livres, la grande étude, l'invariabilité du milieu, les discours et les dialogues, et le Mencius. Les cinq classiques de Confucius et les quatre livres de ses disciples ont été la base de toute la morale chinoise et l'étude obligatoire des lettrés des dynasties à venir.